En tous les cas, soyez les bienvenus pour cette soirée que nous allons avoir ensemble et qui se poursuivra, pas la soirée, mais je veux dire le temps avec Étienne demain, lors de notre culte et puis demain après-midi. Alors la visite d'Étienne, on l'a en fait organisée avec le conseil parce que, comme beaucoup d'entre vous certainement, on se pose beaucoup de questions sur la place, le rôle que les chrétiens peuvent jouer dans notre monde aujourd'hui. Et on aimerait tous apporter la bonne nouvelle autour de nous aujourd'hui, mais le monde dans lequel nous vivons est en train de changer très très vite, et les règles pour pouvoir parler de l'évangile et puis porter la bonne nouvelle dans le monde sont en train de changer très rapidement aussi, du moins. Et beaucoup de gens se posent des questions sur, tout simplement, qu'est-ce que ça signifie de pouvoir exprimer ses opinions ou pour pouvoir apporter la bonne nouvelle dans le monde aujourd'hui. Donc on s'est dit, très bien, il faudrait vraiment qu'on profite de ce temps où il y a beaucoup de brouhaha là-dessus pour se dire et de réfléchir en tant que chrétien, quelle a été la position des chrétiens jusqu'à présent, quelle est leur perspective sur cet espace public dans lequel nous vivons et qu'est-ce que nous pouvons faire ou ne plus faire. Et donc on s'est dit, il faut vraiment qu'à un moment ou un autre, nous puissions, en tant qu'Église, pouvoir parler entre nous un petit peu de la laïcité et de notre liberté d'expression. Et on s'est dit, naturellement, tout ça, ça va de pair avec aussi la proclamation de l'Évangile, qui est aussi quelque chose que nous avons à cœur et que notre Église à laquelle elle réfléchit. Et donc on s'est dit, très bien, il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous aider à réfléchir là-dessus. Et le nom qui nous est venu, c'était celui d'Étienne, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je connais Étienne. Premièrement parce que Étienne connaît ses sujets. Mais aussi Étienne, de par ses fonctions, aujourd'hui parmi les églises évangéliques, est au cœur en fait, de toutes ces discussions-là. Étienne est le président du Conseil national des évangéliques de France, donc il est à Paris, dans la métropole. Mais il est là, à la croisée des chemins, un petit peu, des discussions avec différents groupes d'églises, mais aussi avec les autorités. Et aujourd'hui, fait entendre un petit peu la voix des évangéliques et de la nécessité de pouvoir avoir cet espace où nous parlons et tout ça. Donc nous nous sommes dit, tiens, si Étienne pouvait venir, ça serait quand même une grosse opportunité. Et effectivement, nos calendriers se sont bien harmonisés. Et en tous les cas, Étienne, je te remercie beaucoup. Et en fait, en parlant avec Étienne, il m'a dit, mais moi, le pays de Gex, je connais. J'y suis déjà viendu. Et il est venu il y a des années et des années en arrière. Il a dit, quand j'étais étudiant en agronomie, je suis venu, j'ai fait un stage dans une ferme. Donc j'ai dit, tiens, une ferme, il doit y en avoir plusieurs par ici. Et en fait, c'est la ferme de Loulou et de Roby, où en fait, il est venu passer un mois en tant que stagiaire il y a des années. On ne savait même plus trouver quelle date c'était. C'était tellement loin que ça n'existe plus dans les calendriers. Donc en fait, maintenant, moi ce que je voudrais, c'est laisser la parole à Étienne pour qu'il puisse nous apporter un petit peu ses propres réflexions et ses propres observations sur cette question de la laïcité et de notre liberté d'expression. Encore en nous souvenant qu'en tant que chrétien, l'espace laïque, l'espace qui était un espace ouvert, était quelque chose qui a toujours été fondamental dans la pensée et l'approche de beaucoup d'évangéliques dans le monde aujourd'hui, en se disant il faut qu'il y ait cet espace ouvert où tout le monde puisse en fait exprimer son opinion, et entre autres aussi les chrétiens. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Étienne. Étienne, merci beaucoup d'être venu, et puis nous te remercions beaucoup d'être avec nous ce soir.
Chers amis, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Je suis très heureux d'être là, même si je n'ai pas un souvenir tout à fait précis du lieu de culte. En tout cas, j'ai des très bons souvenirs des temps passés à Collonges. Laïcité et liberté d'expression, quelle place pour les évangéliques en France ? Vous vous souvenez certainement que le mois dernier, à Charleville-Mézières, au collège Léo Lagrange, une jeune fille, une étudiante de 15 ans, Sarah, est empêchée d'entrer dans son collège à deux reprises par la principale pour une raison un peu surprenante, c'est que sa jupe est trop longue et que la longueur de cette jupe est jugée contraire à la laïcité par cette principale. Alors, la motivation de la décision peut paraître surprenante, mais vous allez voir, n'est pas totalement dénuée de fondement. En effet, il y a une loi qui a été édictée le 15 mars 2004, encadrant
En application du principe de la laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Et cette loi dit ceci, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Et la circulaire de l'Éducation nationale, qui explique comment doit s'appliquer cette loi, dit « Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa, ou une croix de dimension excessive, manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi. » Alors, vous l'avez bien compris, quand on dit, par exemple, une croix de dimension manifestement excessive, ça laisse un champ d'interprétation relativement vaste. Et on peut se demander si la longueur de la jupe marquait vraiment une appartenance religieuse, ou c'était peut-être simplement un mouvement d'humeur adolescent, comme tous nos enfants en ont. L'autre question qu'on peut se poser, c'est si c'était tout à fait judicieux de sanctionner le port de ce vêtement au risque de nourrir un sentiment de rejet chez les musulmans que savent très bien exploiter les plus radicaux d'entre eux. Mais je ne vais pas répondre à cette question. Ce qui est intéressant pour nous ce soir, c'est ce que cette principale a fait et la manière dont les médias en ont rendu compte, c'est ce que ça révèle sur le climat qui existe dans notre pays sur ces sujets. Et je voudrais vous montrer successivement quatre choses. D'abord, que la laïcité a été une belle avancée républicaine pour les évangéliques en particulier, mais pas seulement pour eux. Je vous donnerai donc quelques repères historiques. Elle permet ensuite, à mon sens, un équilibre satisfaisant. Je vous donnerai quelques repères juridiques. Mais elle fait l'objet d'évolutions préoccupantes et je ferai ici un écho de l'actualité un peu plus large que celui mentionné immédiatement. Enfin, je voudrais terminer par un sujet qui nous concerne très directement. Elle n'est pas, la laïcité, une valeur suprême pour les croyants néanmoins. Et il y a donc des défis à relever pour vivre notre foi dans un pays laïque. Une avancée républicaine. Quelques repères historiques. Quand la loi du 9 décembre 1905 qui régit nos églises est promulguée, elle met un terme à un régime de plus d'un siècle qu'on appelle le régime concordataire, qui a été mis en place par Bonaparte en 1801, qui avait consacré un certain niveau de pluralisme religieux. Mais je dis bien un certain niveau, parce qu'en réalité, il n'y avait que quatre cultes reconnus au niveau national. Il y avait l'Église catholique, les églises réformées, les églises de la confession d'Augsbourg, c'est-à-dire les églises luthériennes, et enfin le culte israélite. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que ce régime concordataire servait surtout à Bonaparte à contrôler les religions pour en faire des instruments de soumission sociale, ce qui est, ma foi, contestable. Vous avez noté que dans ce régime sont absents des églises pourtant présentes sur le sol français au XIXe siècle. Je veux parler des anabaptistes, donc parmi eux surtout les mennonites, les quakers, les méthodistes et aussi les moraves. Ce qui fait que la liberté religieuse au XIXe siècle, avant la loi 1905, est relative en France. Et les communautés évangéliques connaîtront bien des difficultés. Dans le livre ici que nous avons édité au Conseil national des évangéliques de France, vous trouverez toute une chronique historique sur ces difficultés par l'historien Jean-Yves Carluère, et il mentionne l'une d'entre elles, par exemple. À propos des baptistes qui ont commencé à avoir un peu de succès en Picardie, dans la vallée de l'Oise, autour de Chauny et l'affaire en 1840. Mais figurez-vous que la persécution a été brutale et lourde. C'est une chose qu'on a oubliée. Mais l'évêque du coin a dénoncé ces clandestins, qui ne l'étaient pas tout à fait, simplement ils n'étaient pas religion reconnue, Et du coup, le pasteur Lepoix, il s'appelait Lepoix, le colporteur Bézin et quelques autres sont mis en prison et les temples sont fermés. L'affaire prit un tour national dans la mesure où les journaux protestants et un député du nom de Agénor de Gasparin ont pris la défense de ces pasteurs et de ces baptistes. Mais quand la révolution éclate en 1848, en réalité, les baptistes ne sont toujours pas rétablis dans leurs droits. Et la persécution va reprendre, de telle sorte que le baptisme qui se voyait promis un bel avenir va connaître un coup d'arrêt. Et il y a déjà une cinquantaine de personnes, 50 baptistes, qui vont quitter cette région. Sur l'ensemble du siècle, Sébastien Fatt, le sociologue, estime qu'il y a environ 200 baptistes qui quittent la région et même la France. Hein, certains vont jusqu'en Argentine. Et on estime que ça représente à l'époque 15% quand même des effectifs baptistes de cette région. La liberté est religieuse. La liberté est relative. La liberté religieuse est relative. Mais vous imaginez bien que les évangéliques, du coup, dans ces conditions, quand ils vont voir les républicains arriver avec leur volonté de séparer les églises et l'État, ils vont voir ça d'un très bon œil. D'abord, ils ne sont pas des cultes reconnus, comme je vous l'ai dit. Donc, eux, ils n'ont rien à perdre. Leurs pasteurs ne sont pas payés, leurs édifices ne sont pas entretenus par la République. Donc, du coup, on peut leur couper les vivres, ils n'en ont pas. Hein ? Mais il y a autre chose de plus profond. C'est que cette séparation qu'appellent de leurs vœux les républicains entre Église et État correspond à une conviction très forte chez les évangéliques depuis toujours. Ils sont persuadés que la foi personnelle en Dieu ne fait pas bon ménage avec la religion d'État. Voici un bref rappel. Bien avant la naissance de notre démocratie, mes amis, les anabaptistes mennonites, puis les baptistes ont défendu l'idée que la foi des sujets d'un royaume ne devrait pas dépendre de celle du souverain. Et c'est l'un d'eux, le pasteur Roger Williams, qui, au milieu du XVIIe siècle, a jeté les bases d'un État laïque dans une colonie d'Amérique, la colonie de Providence, qui a donné naissance ensuite à l'État de Rhode Island. Ainsi, contrairement aux idées reçues et souvent annoncées, la liberté de conscience et d'expression et la séparation des églises et de l'État ne trouvent pas leur origine en dehors de la foi chrétienne, mais en son sein. Et il convient de préciser, en plus, que c'est au sein d'une version du christianisme particulièrement militante. Le sociologue Jean Bobéro fait remarquer que Roger Williams accueillait en Rhode Island les Quakers, qui étaient pourchassés dans les autres colonies, mais ça ne l'empêchait pas ensuite de ferrailler avec eux doctrinalement pour tenter de les convertir. Pour vous donner une idée de la modernité des thèses de ce Roger Williams du XVIIe siècle, je vous lis un extrait de sa préface. Alors écoutez le titre, il est évocateur, « La doctrine sanguinaire de la persécution pour motif de conscience ». Il s'en prend à cette persécution. Les pouvoirs civils, dit-il, et leurs officiers de justice avec leurs constitutions et leurs administrations respectives sont civils par essence. Et par conséquent, ils ne sont ni juges, ni gouverneurs, ni défenseurs de la condition et du culte spirituel ou chrétien. Dieu ne demande pas que soit décrétée et imposée une uniformité de religion dans la communauté civile, quelle qu'elle soit. Autoriser des consciences et des cultes autres que ceux que professe un État est la seule chose qui puisse, aux yeux de Dieu, procurer une paix ferme et durable. La vraie civilité et le vrai christianisme peuvent tous deux prospérer dans un État ou un royaume, alors même que sont permises des consciences diverses et contraires, qu'il s'agisse de juifs ou de gentils. Gentils au sens de païens, de gens qui ont une foi non chrétienne. Troisième repère historique, les protestants ont pesé dans les débats qui ont abouti à la loi de séparation de 1905. Alors, il faut savoir qu'à partir de 1879, avant donc cette loi, les évangéliques vont tirer des bénéfices de leur alliance avec des républicains. Je peux vous citer par exemple l'un d'entre eux, le pasteur Edmond de Pressensé. Il y a des évangéliques ou des amis des évangéliques parmi les milieux dirigeants. Et dans quel sens les protestants vont-ils peser dans les débats? Eh bien, dans le sens d'une conception libérale de la séparation entre Église et État. Je vais m'expliquer. Retenez deux noms. Il y a un certain Raoul Allier, qui est un théologien, et il y a un certain Louis Méjean, qui est haut fonctionnaire, ainsi que son frère François Méjean, qui est pasteur. Ce sont les deux premiers des évangéliques libres, Église évangélique libre, je ne pense pas qu'il y en ait dans le secteur. Il faut aller à Cluses ou à Sallanches, Annemasse. Et le troisième est un réformé évangélique. Ils vont s'insurger par voie de presse dans le quotidien Le Siècle contre le projet qu'ils jugent liberticide de séparation préparé par Émile Combes. Alors, il faut quand même dire un peu pourquoi ils réagissent. Eh bien, figurez-vous qu'Émile Combes, pour éviter que ne se constitue à l'échelle nationale une Église catholique unifiée et puissante, pour empêcher les évêques jusque-là cantonnés dans leur diocèse et contrôlés par le préfet de faire bloc en un seul corps, avait prévu que les associations qui prendraient en charge l'exercice des cultes ne pourraient pas s'unir au-delà des limites du département. Alors ça pouvait éventuellement fonctionner avec l'Église catholique, quoiqu'elle est d'abord Église universelle, mais alors pour les quelques protestants éparpillés sur le territoire, si vous les obligez à ne s'unir qu'avec les gens du même département, en gros, il y avait une Église. Quand il y en avait une, et il n'y avait pas de possibilité d'unité, ça aurait été un coup, peut-être pas de mort, mais en tout cas d'arrêt assez net à l'expansion du protestantisme. La pression que fait Raoul Allier, il écrit quand même 46 articles dans ce quotidien en l'espace de quelques mois, et la chute du gouvernement Combes vont faire triompher le point de vue libéral, c'est-à-dire la loi de séparation doit d'abord être une loi de liberté et non pas une loi de restriction. Il faut dire que le fameux Louis Méjean, dont je vous ai parlé tout à l'heure, haut fonctionnaire, s'est retrouvé être le rapporteur, le secrétaire du rapporteur de la commission parlementaire de l'époque, Aristide Briand. Et il va jouer avec Aristide Briand un rôle décisif, à la fois dans la rédaction de la loi et puis dans la rédaction des textes d'application, puisque Louis Méjean va devenir le directeur des cultes. Alors, voilà un rapide tableau historique. Ce qu'il faut retenir, c'est un, que la séparation des églises et de l'État ne s'est pas fait sans mal, que deux, ces affrontements ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui dans les mémoires et dans les réactions, et trois, c'est que les protestants, et parmi eux les évangéliques, ont joué un rôle décisif bien supérieur à leur poids numérique. Mais que faut-il penser de la laïcité telle qu'elle s'exprime aujourd'hui? Alors j'aimerais d'abord... Attendez. Oui, c'est ça. On peut dire que, en stipulant, écoutez bien, que la République assure la liberté de conscience, qu'elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public, puis un peu plus loin, que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, en édictant ces choses, la loi du 9 décembre 1905 définit clairement le régime juridique de séparation entre l'État et les cultes. Et cela a tranché un vieux conflit qu'on appelle le conflit des deux Frances. L'une voulait que soit établie de façon affirmée l'Église catholique dans la société politique, et l'autre France voulait que l'État régisse les religions à la façon de Bonaparte. Vous remarquerez que dans les mots que je vous ai lus, il n'y a pas le mot de laïcité. Et que d'ailleurs, la loi 1905, dans son ensemble, ne fait jamais référence au terme. Mais en fait, elle en pose le cadre. Dans la droite ligne de textes qui l'ont précédé, hein, déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il était dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Alors elle repose cette loi sur deux principes. Le premier, c'est la liberté de conscience du citoyen. Il peut croire ou ne pas croire. Et le deuxième, c'est le principe de séparation. Alors vous devez bien avoir à l'esprit que le principe de séparation signifiait que chaque culte catholique, réformé, israélite, luthérien, qui jusque-là avait vécu des subsides de l'État, verrait ce budget sans subside de l'État et devait désormais l'assurer lui-même. Et ça n'a pas été une affaire simple. Ça a créé des crispations, des craintes telles d'ailleurs que les catholiques, il a fallu, pour résoudre le problème, attendre 1924 et une loi particulière entre l'État du Vatican et la France pour résoudre le problème, en particulier des édifices religieux. Deuxième chose que j'aimerais dire, la laïcité, qui est souvent invoquée comme une notion idéologique, j'y reviendrai plus tard, est en fait d'abord une notion juridique. Et c'est une notion juridique qui se base sur la loi de 1905, mais qui la dépasse largement. Et avant d'en donner le détail, j'aimerais vous préciser trois choses. Il n'y a que deux pays au monde qui utilisent le mot laïcité. La France et, je vous le donne en mille, la France et la Turquie. Et la Turquie. Ce sont les deux seuls États qui, dans leur texte, se présentent comme des États laïcs. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la France est aujourd'hui impliquée dans plus qu'elle-même. Et en particulier, elle a ratifié en 1974 une convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1950, donc elle a mis 24 ans à la ratifier, mais elle l'a ratifiée. Et cette convention est assortie de tout un mécanisme juridique de contrôle avec une Cour européenne des droits de l'homme, de telle sorte que la France ne peut pas, en ces matières, faire tout à fait ce qu'elle veut. Et vous entendez parler parfois, dans ces affaires-là, de recours auprès de la Cour européenne, parce que le justiciable estime ne pas avoir obtenu satisfaction en France. La liberté de religion est proclamée par cette convention, et quant à la Cour européenne, elle a, au fil du temps, développé une jurisprudence, c'est-à-dire des décisions qui vont dans le sens de la laïcité française, assez proche de ce qu'est la laïcité française. Puis encore une troisième réalité que vous devez connaître, c'est que nous sommes membres de l'Union européenne et qu'à ce titre, notre droit n'est pas seulement le droit français. Néanmoins, le droit de l'Union européenne en matière religieuse est assez neutre. Il laisse cette question aux États membres. La seule chose sur laquelle le droit de l'Union européenne insiste, c'est le caractère non discriminatoire des décisions prises en économie, en politique étrangère, en sécurité, etc., il s'agit de ne pas faire valoir, ni en bien ni en mal, l'appartenance religieuse d'un groupe ou d'une personne. C'est surtout sur ces aspects-là que le droit de l'Union européenne insiste. Maintenant, revenons à la France. La France, en fait, possède essentiellement deux niveaux de laïcité. La laïcité dite constitutionnelle, et la laïcité dite législative. Alors, ce qui est constitutionnel, qui est inscrit dans la Constitution d'un point de vue juridique, est plus haut dans la hiérarchie que ce qui est législatif. Que dit la Constitution française ? Elle dit ceci : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Dans une décision de novembre 2004, concernant le traité qui allait établir la Constitution pour l'Europe, le Conseil constitutionnel explicite ainsi l'affirmation « La France est une république laïque ». Elle dit que cela implique des dispositions qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Je répète, elles interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. C'est assez étonnant, parce que cela veut dire que la laïcité n'est pas conçue ici comme une obligation pesant sur l'État, ce qu'elle est en fait. Hein. C'est l'État qui est laïque. J'y reviendrai plus tard, mais c'est l'État en France qui est laïque. Ce n'est pas l'individu et ce n'est pas la société. Donc ici, on a l'impression que ce n'est pas vraiment l'État qui est concerné, mais c'est plutôt la laïcité, une restriction à la liberté religieuse de l'individu ou du groupe dans leur relation avec l'État. C'est un fléchissement un peu étonnant. Deuxième chose, le Conseil constitutionnel ne dit rien de séparation, de la séparation des cultes et de l'État. Il s'intéresse seulement aux relations entre l'État et les particuliers. Ce qui fait qu'il introduit, si vous voulez, une dimension personnelle, là où on s'attendrait à avoir une dimension institutionnelle dans la mise en œuvre de la laïcité. Le Conseil d'État, lui, a fait un rapport en 2004 aussi, en mars 2004, où il a fait la synthèse de toutes les décisions juridiques qui ont été prises pendant un siècle, et il en a dégagé trois piliers pour la laïcité. Il dit, la laïcité, c'est un, la neutralité de l'État quant aux croyances. C'est-à-dire, l'État n'a pas de confession religieuse. Il n'est ni musulman, ni athée, il n'est rien de tout cela, il est neutre. Ce qui signifie que les services publics et leurs agents ont obligation de neutralité. Mais attention, cette neutralité des agents ne s'impose pas aux usagers, même s'il y a des évolutions préoccupantes en la matière. C'est-à-dire que l'agent qui vous reçoit dans un service public ne peut pas afficher sa religion. Mais il ne vous est pas interdit de venir, vous, dans un service public, en tant qu'usager, avec ce que vous êtes et ce que vous croyez. Petite remarque qui va vous faire penser à quelque chose de récent. La neutralité religieuse de l'État ne s'oppose pas à ce qu'il prenne en compte les traditions culturelles empreintes de convictions religieuses. Alors c'est subtil. A-t-on le droit de mettre des crèches dans des mairies ou dans des conseils généraux? Mais de façon plus large, ça veut dire qu'on peut très bien avoir des jours fériés chrétiens et pourquoi pas demain musulmans, hein. Ça veut dire que rien n'empêche à ce qu'on propose des menus de substitution pour les musulmans dans les cantines, pour éviter de leur donner du porc. Et rien n'empêche qu'on aménage les dates d'examen en fonction du sabbat pour les juifs. Deuxième pilier de la laïcité selon le Conseil d'État, la liberté de conscience et la liberté de culte des individus. Ce qui veut dire que l'individu est libre d'exprimer, mais aussi de manifester sa croyance en privé et en public, individuellement et collectivement. Troisième pilier, le pluralisme, qui implique le respect de toutes les religions, même minoritaires. Et le Conseil d'État rappelle une chose qui est souvent méconnue de nos élus, c'est que si l'État ne reconnaît aucune religion, cela veut dire qu'il les connaît toutes et non pas qu'il les méconnaît toutes. Vous voyez, la nuance est subtile. Et qu'il reconnaît d'ailleurs le fait religieux dont l'éducation nationale veut faire l'enseignement. Alors là, après, on peut discuter de la façon dont elle s'y prend, mais néanmoins, le fait religieux est une chose reconnue et théoriquement qui devrait être enseignée. Deuxième niveau de laïcité, c'est la laïcité législative. Alors, vous savez qu'en France, il n'existe pas une seule forme de laïcité. Il en existe plusieurs. Puisque, là, alors le modèle dominant, c'est la loi de 1905, mais vous allez en Alsace-Moselle. Vous êtes encore sous les articles organiques du régime concordataire, c'est-à-dire que catholiques, réformés luthériens et israélites, c'est-à-dire culte juif, sont toujours subventionnés par l'État. Mais vous allez dans plusieurs des DOM et des TOM, donc départements et territoires d'outre-mer, où la loi 1905 ne s'applique pas. Donc il n'y a pas uniformité quant à la modalité de la laïcité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi de 1905, si on va s'arrêter qu'à elle, pour ne pas compliquer les choses, se veut avant tout une loi de liberté, puisque la première chose qu'elle dit, c'est que la République, alors je vous l'ai lu tout à l'heure, je vais le relire. La République assure, c'est le premier mot, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Le seul limite à cette liberté, c'est le respect de l'ordre public. Il se trouve que le rapporteur, celui qui a permis Aristide Briand, qui a permis donc l'adoption de la loi, lors des travaux préparatoires, a dit ceci, et je trouve ça très intéressant. Grâce à l'article placé en vedette de la réforme, c'est-à-dire la République assure la liberté de conscience, le juge saura dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra être légitimement invoqué dans le silence des textes, ou dans le doute sur leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée législative. Et d'ailleurs, le titre 5 de cette loi, qui s'appelle « Police des cultes », en fait exprime la protection de la liberté de réunion, de la liberté de manifestation publique, de la liberté d'association et de la liberté d'exercice du culte. Vous voyez ? Protection de la liberté, de la liberté, de la liberté. En matière de séparation, la loi de 1905 avait en fait deux objectifs. Il s'agissait de séparer les cultes concordataires catholiques, réformés, luthériens, israélites, organisés comme des établissements publics jusque-là, les séparer de l'État, et donner les moyens à tous les cultes, y compris ceux-là, d'avoir une nouvelle forme juridique en organisant des associations cultuelles, ce que vous utilisez. Alors, il y a une petite subtilité quand même, parce que si l'État ne reconnaît pas de culte, il reconnaît quand même des instances représentatives des cultes. Et donc, il y a une sorte de reconnaissance semi-officielle. La Fédération protestante de France, le Conseil national des évangéliques de France, le Conseil français du culte musulman. Évidemment, l'État a besoin néanmoins de relais. Et donc, il est bien obligé de faire avec et de reconnaître partiellement à travers ce système des instances avec lesquelles il peut discuter. Autre remarque qui est souvent très méconnue des élus, et qui peut peut-être vous intéresser, vous qui êtes dans un projet immobilier, c'est que l'interdiction de financement public du culte n'est pas un principe constitutionnel. Il souffre donc de nombreuses exceptions tout à fait légales. Alors déjà, il y a en France des cultes qui sont financés en Alsace. Et ce n'est pas anticonstitutionnel, il y a même une question prioritaire de constitutionnalité sur la question, Et le Conseil constitutionnel a jugé que c'était conforme à la laïcité, même si c'était différent du reste de la France. Deuxième situation, il est possible de recevoir des financements pour l'entretien et la conservation des édifices du culte. Alors, il y a d'abord une catégorie de ces édifices, ce sont tous les édifices récupérés par l'État, puis rendus aux communautés religieuses, parce que l'État n'aurait pas su quoi en faire. Que voulez-vous qu'il fasse d'église ? Et c'est ainsi que les églises catholiques, généralement, voient l'entretien de leurs bâtiments assuré par la commune, tout à fait légalement. Mais, et c'est là que ça peut être plus intéressant, c'est aussi possible à une mairie ou à une collectivité de financer les travaux de réparation des édifices qui sont pourtant propriété des associations cultuelles. Peut-être le moment d'aller voir le maire. Enfin, dernière chose que vous devez savoir, j'y reviendrai tout à l'heure. Dernière chose que vous devez savoir, les services d'aumônerie sont financés par l'État, qu'il s'agisse des aumôneries dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, dans les hospices, dans les asiles et dans les prisons. Pourquoi ? Parce que l'État a bien conscience que la seule manière de garantir le libre exercice du culte d'un public captif. Alors, je sais bien qu'au collège ou au lycée, on n'est pas tout à fait captif, mais un peu quand même. Je précise justement, il existe deux façons, deux dispositifs légaux qui permettent une aide publique à la construction des lieux de culte. Vous savez qu'il y a deux grandes familles aujourd'hui qui ont besoin de lieux de culte et qui ont du mal à les trouver, parfois à les financer, mais même à les trouver, sont les musulmans et les évangéliques. Juste pour vous donner une idée, en France, il y a environ une église évangélique tous les 10 jours qui se crée. Et donc, ça appelle des besoins en locaux. Alors, la première possibilité pour les collectivités territoriales, c'est de garantir les emprunts contractés pour financer ces lieux. Mais alors, il y a une précision, il faut que ce soit dans des agglomérations en voie de développement. Il paraît que la notion est assez large. Mais donc, une collectivité peut garantir l'emprunt, et c'est pas rien. Hein. Quand vous cherchez un banquier qui prête à une église, c'est pas rien. Deuxièmement, il existe une disposition qu'on appelle le bail emphytéotique administratif. Vacisdas. Un bail emphytéotique, c'est en réalité un terrain mis à la disposition d'une association ou d'une personne morale pour une durée allant de 18 à 99 ans, généralement pour des sommes extrêmement modiques, à charge pour vous de construire l'édifice dont vous avez besoin dessus. Mais quand vous connaissez le prix du foncier dans certains endroits, et il paraît qu'ici c'est pas mal, vous savez l'aide que ça peut représenter. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe au bout des 18 ou 99 ans ? Eh bien, théoriquement, vous savez, en droit français, ce qui est construit sur un sol qui appartient à monsieur ou à madame X, appartient à monsieur ou madame X, même si ce n'est pas lui qui l'a financé. Théoriquement, à la fin du bail, l'édifice cultuel devrait revenir à la collectivité. Dans la pratique, tous les baux emphytéotiques qui sont arrivés à terme ont été renouvelés. Parce que là encore, que voulez-vous que la mairie fasse, sinon se faire de solides ennemis en gardant le bâtiment dont elle ne saurait pas quoi faire. Si je faisais maintenant un bilan de l'équilibre que je juge globalement satisfaisant sur le plan juridique de la laïcité, je vais paraphraser Churchill. La laïcité, mes amis, est comme la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Une autre façon de dire que nous n'avons pas avec la laïcité une solution miracle qui permettrait de résoudre tous les problèmes, mais un cadre raisonnable qui permet de gérer dans l'espace public des aspirations parfois contradictoires entre l'État et son devoir de neutralité, les adeptes de religion et ceux qui s'y opposent, et puis, honnêtement, la grande majorité de nos contemporains, généralement silencieuse, qui ne professe aucune religion et qui veut surtout qu'on lui fiche la paix. Au fond, notre laïcité française a permis jusqu'ici, bon an mal an, hein, ça fait 110 ans maintenant, de trouver un équilibre propice à la liberté religieuse et à la paix civile. Alors tout est bien dans le meilleur des mondes, ben non, pas tout à fait. Et c'est là que j'aimerais vous parler des évolutions préoccupantes et faire écho à l'actualité. Parce que la situation n'est évidemment pas statique. Et vous savez qu'en matière d'application de la loi, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence et qu'une jurisprudence évolue. Vous savez, le contexte qui a vu l'adoption de la loi 1905 n'a plus grand-chose à voir avec le contexte de 2015. Je vous le rappelle, le pluralisme en 1905 était limité, beaucoup plus limité qu'aujourd'hui. Et puis, l'Église ou la religion qui posait problème, c'était l'Église catholique. Elle était l'objet de toutes les attentions et aussi de quelques soupçons. Pourquoi ? Parce qu'elle était dominatrice et qu'elle voulait tout régenter. Le pluralisme religieux est aujourd'hui infiniment plus important. Pour ne citer que, les bouddhistes n'étaient pas présents à cette époque. Et l'islam était à peine présent s'il l'était, je ne suis même pas sûr. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est l'islam qui accapare l'essentiel de l'attention. Alors, je voudrais quand même éviter une confusion en tirant un parallélisme entre catholicisme et islam. Je précise qu'en 1905, on négociait la fin de la domination séculaire du catholicisme, tandis qu'en 2015, on essaie de se prémunir contre les velléités d'intimidation et de domination d'une partie de l'islam radical et violent. Et ce que je crois observer, c'est que la peur de cet islam nourrit la crainte des religions, quand il ne sert pas de prétexte d'ailleurs, au sentiment anti-religieux, et renforce des évolutions préoccupantes en matière de laïcité. Alors j'ai été reçu avec le directeur du CNEF le 17 mars devant l'Observatoire de la laïcité. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est cet observatoire. Il a pour président Jean-Louis Bianco, ancien ministre, et il a pour tâche d'observer, de donner aussi des avis sur ce qui se passe sur le plan de la laïcité, et ils auditionnent régulièrement les religions. C'était la deuxième fois que nous étions auditionnés, et je vais vous transmettre ce que j'ai dit à Jean-Louis Bianco et au rapporteur de cet observatoire. Pour moi, le premier problème, c'est que la laïcité tend à devenir une religion de substitution. Et au fond, on détecte ça dans le vocabulaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que désormais, la laïcité n'est plus un principe, c'est une valeur. Et si on écoute certains commentateurs, c'est même la valeur ultime de la République qui va nous tirer d'affaire. Alors du coup, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre sur le fronton de nos mairies liberté, égalité, fraternité, laïcité? Il y a à mon sens un glissement qui indique que la laïcité n'est plus seulement un cadre qui organise le pluralisme des convictions religieuses et l'absence de convictions religieuses, mais devient une croyance en soi qui s'impose à toutes les autres, qui prétend repousser dans la sphère privée entre les murs des édifices religieux l'expression des convictions religieuses et juge a priori toute expression publique de la foi, au mieux comme nuisible, au pire comme dangereuse. Et ce qui était très étonnant, c'est que dans le dialogue que nous avons eu avec l'Observatoire de la laïcité ensuite, je ne sais pas si vous connaissez le poète guadeloupéen Daniel Maximin, il a réagi en me disant « Mais monsieur le pasteur, évidemment que la laïcité doit s'imposer à toutes les autres croyances. » Et je n'ai pas pu lui faire entendre raison pour lui dire « Mais non, la laïcité organise l'expression des croyances, mais elle n'est pas une croyance en soi. » Au tout dernier dîner du CRIF, vous savez ce que c'est, le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, pour la première fois nous étions invités, le vice-président du CNEF, Daniel Lichty, était à côté d'un conseiller régional d'Île-de-France qui s'est penché vers lui et qui lui a dit « Vous savez, monsieur le pasteur, nous sommes un certain nombre à penser que si la pratique des religions était confinée au domicile et au lieu de culte, il n'y aurait plus de problème en France. » Qu'un élu dit ce genre de choses me paraît tout à fait préoccupant. Ce qui est préoccupant, c'est que d'abord, en disant cela, cet élu balaye tout ce que le droit dit sur la possibilité, non seulement de croire, mais de partager sa foi et même de la manifester publiquement. Bien sûr, en respectant l'ordre public, mais ça, c'est une évidence. Il est aussi ensuite un reflet assez fidèle de toute une veine de propos tenus par des personnes influentes, qu'il s'agisse de journalistes, d'élus ou de fonctionnaires. C'est ainsi qu'on voit fleurir des projets de loi ou des initiatives privées visant à instaurer une stricte neutralité sur le plan de l'expression religieuse dans les centres de vacances. Il y a un projet de loi dans ce sens. On voudrait imposer la stricte neutralité dans les crèches privées, qu'on le fasse dans les crèches publiques, évidemment, et dans les crèches privées. Et vous avez bien entendu aussi qu'il y avait des volontés d'imposer une charte de laïcité sur le lieu du travail, y compris dans les entreprises privées. Enfin, et c'est le plus grave, cela aboutit dans certaines circonstances à une forme de restriction, voire de répression illégale à l'endroit des associations cultuelles. Il n'est pas rare que des associations cultuelles se voient refuser le prêt ou la location de locaux communaux pour des motifs religieux. Codognan, une ville du Gard, où se tient depuis des années un festival de musique chrétienne. Eh bien, il y a 2 ou 3 ans, la mairie a refusé de donner les autorisations pour la tenue de ce festival, et donc le prêt du terrain en question, au motif de la laïcité. Nous sommes allés, Fédération protestante, Conseil national des évangéliques de France, en justice, et nous avons gagné. La mairie a été déboutée. Je pourrais encore vous parler des groupes bibliques universitaires qui se sont vus interdits à Grenoble l'utilisation d'une salle pour tenir un forum veritas, c'est-à-dire un forum dans lequel à la fois des non-chrétiens et des chrétiens, de haut vol en général, débattent de questions évidemment qui ont un lien avec la foi, mais ce n'est pas du prosélytisme au sens ordinaire du terme. Mais je pourrais aussi vous parler des mêmes GBU qui, à la Cité internationale, c'est-à-dire un lieu de résidence d'étudiants à Paris, alors qu'ils distribuaient des invitations pour leur rencontre, ont vu débarquer les policiers qui leur ont intimé l'ordre d'arrêter sous peine de les emmener au poste, en contravention même avec la loi. Ou encore les amis des Gédéon qui me racontaient qu'à Paris, alors qu'ils distribuaient les Nouveaux Testaments à distance réglementaire, parce que vous savez qu'il y a une distance à respecter des lycées, en particulier des hôpitaux, etc., à distance réglementaire, ont vu débarquer la police, appelée évidemment par le proviseur, et la police voulait les empêcher de le faire. Alors, ils sont plus âgés que les gens des GBU, ils ont plus de métiers. Le responsable leur a dit « Mais montrez-moi quelle loi m'empêche de distribuer le Nouveau Testament sur la voie publique, dans la mesure où je respecte les distances réglementaires. » Et le policier a été obligé de repartir. Et voyez un petit peu la tendance qu'on remarque ici et là. Deuxième préoccupation, je vais être plus rapide, un manque d'équité entre les cultes. Nous voyons l'État et les collectivités locales, territoriales, agir différemment selon les cultes auxquels elles ont affaire. Il n'est pas rare que les protestants évangéliques doivent se battre parfois sans succès, pour être reçu au plus haut niveau de l'État. Là, je parle du CNEF. Tandis qu'on reçoit tant et plus d'autres cultes. Je pourrais aussi vous parler de la façon dont des églises évangéliques se voient régulièrement refuser, pour des motifs administratifs, l'implantation d'un lieu de culte, alors que ces mêmes églises évangéliques financent intégralement ce lieu de culte. Et dans le même temps, ces mêmes municipalités souscrire des baux amphithéotiques avec des communautés musulmanes, par exemple. Alors, je voudrais juste préciser, ça ne me pose pas de problème qu'une municipalité donne aux musulmans la possibilité de célébrer leur culte. Ce qui me pose problème, c'est qu'elle n'agisse pas de façon égale entre les cultes. Tout le monde a le droit de vivre et de célébrer sa foi. Je crois que ça doit être... On ne peut pas vouloir la liberté pour soi et la refuser aux autres. La liberté est ce qu'on appelle un bien indivisible. Mais là, le problème, c'est plutôt l'inéquité. Troisième problème, ça c'est très net dans nos discussions avec les élus, c'est que tout le monde est polarisé sur l'islam. Et un peu comme avec Émile Combes qui croyait régler le problème de l'Église catholique en faisant une loi sur mesure, j'ai le sentiment que nos élus croit régler tous les problèmes en prenant des dispositions qui sont calquées uniquement sur les problèmes de l'islam. Ça a même été jusqu'à quelque chose que je trouve totalement déplacé. L'Observatoire de la laïcité, j'ai eu l'occasion de leur dire, a proposé que l'État finance des instituts privés de théologie musulmane. Alors après, ils ont rétro-pédalé, parce que ça suscitait un tollé. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ne pas promouvoir une religion d'État français dans le souci d'échapper à l'influence, certes préoccupante, que certains États exercent sur une partie des musulmans français. Pour éviter que ce soit les Saoudiens, alors il faudrait que l'islam soit subventionné par l'État français. Mais on fera, dans ce cas-là, ce qu'on reproche aux autres de faire. Et puis, j'aimerais attirer votre attention sur un curieux paradoxe que vous ne devez pas connaître. Figurez-vous que, devant le fleurissement d'écoles supérieures en tout genre, l'État remet en vigueur le monopole qu'il a sur ce qu'on appelle les grades universitaires. Théoriquement, dans le droit français, il n'y a que l'État qui peut délivrer la licence, le master et le doctorat. Mais depuis cette loi de l'enseignement supérieur de 1875, l'État a fermé les yeux sur la situation de la théologie, et pour cause, puisqu'il ne délivre pas, l'État, de diplôme de théologie. Donc, depuis ces années-là, catholiques, orthodoxes, protestants de tous bords délivrent des licences, des masters et des doctorats. Eh bien, depuis quelques années, et en particulier depuis quelques mois, la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence s'est vue intimer l'ordre d'arrêter de délivrer des diplômes de licences, de masters et de doctorats. Et je ne cesse dans les cabinets de dire « mais c'est une bêtise ». Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de pousser les évangéliques et les protestants, les évangéliques en particulier, qui ont réussi à contextualiser leur théologie, vous allez les pousser à aller chercher leur diplôme à l'étranger. Et dans le même temps, vous voulez financer la théologie musulmane pour qu'elle soit plus française. Je dis, mais où est l'erreur ? Donc on a un vrai problème, vous le voyez, avec des initiatives qui, à mon avis, sont peu réfléchies sur le plan politique. Puis la dernière chose que j'aimerais mettre en valeur, que j'appelle la nature à horreur du vide. Il me semble que les attentats de janvier dernier ont mis quelque chose en lumière. Il y a dans les quartiers sensibles, dits sensibles en France, un tel vide spirituel, un tel manque de sens, qu'une partie de notre jeunesse est prête à croire n'importe quoi pour sortir de ce néant. La conviction que j'ai, c'est que ces jeunes et ces quartiers sont des proies faciles, non pas parce qu'il y aurait excès de religion au singulier, mais parce qu'il y a un manque de religion au pluriel. Pour le dire autrement, si on ne laissait pas l'islam radical seul dans ces quartiers avoir pignon sur rue, si d'autres religions pouvaient se manifester, il est à peu près sûr que les choses se passeraient autrement. La conviction, si au lieu de s'évertuer à aseptiser la sphère publique de toute croyance et expression religieuse, l'État et les collectivités s'appuyaient sur les communautés religieuses, mais aussi philosophiques et politiques, pour arpenter ces quartiers, les animer, les apaiser, il y a fort à parier que les prédicateurs du djihad susciteraient moins de vocation. Car vous devez le savoir, dans ces zones de non-droit, ce sont souvent les croyants et leurs communautés qui créent encore du lien social. Et puisque l'État ne saurait choisir une religion, eh bien qu'il les encourage toutes également. Et la cohabitation créera entre ces religions une saine émulation. Le sociologue Sébastien Fatt dit qu'il parle à ce propos de conflictualité créative entre les religions. Et il dit qu'il faudrait privilégier la laïcité roquefort plutôt que la laïcité fromage 0%. Fromage blanc 0%. Et il n'a pas tort. Vous êtes encore là ? Bien. Je vais boire avant de poursuivre. que convient-il pour nous, évangéliques, de retenir de ces informations et préoccupations sur la laïcité et la liberté d'expression? Eh bien, que même bien comprises et défendues, ces réalités resteront toujours pour nous secondes. En citoyens respectueux et constructifs de la République, nous défendons avec ardeur une certaine conception du vivre ensemble qui passe, à mon avis, par une laïcité bien comprise et une liberté d'expression respectueuse des opinions d'autrui. Mais nous sommes, en plus d'être des citoyens, des disciples de Jésus-Christ. Et nous nous attachons à cause de cela à l'ordre d'aller par le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Et nous n'avons nullement l'intention, mes chers amis, de sacrifier sur l'autel de la pensée unique nos convictions. Pour le dire autrement, si d'aventure l'opinion ou les élus tentaient de restreindre notre liberté de parole et de culte, ce qui pourrait arriver, hein, ou faisaient pression pour que nous mettions l'évangile sous le boisseau, nous continuerions, je l'espère sans faiblir, à témoigner publiquement de notre foi, à inviter ceux que nous croisons et côtoyons, y compris les musulmans, à se tourner vers le Christ et à implanter de nouvelles églises. Et pour moi, le courage de Pierre et des autres apôtres, devant la plus haute juridiction religieuse de leur pays, le Sanhédrin, ou Grand Conseil, devrait nous servir d'exemple. Alors que ce grand conseil ordonnait pour une deuxième fois à ces hommes de se taire, ils n'ont pas hésité à répondre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'avant même d'avoir commencé le combat, nous avons dans certains domaines déjà déposé les armes. Nous avons si bien intégré les diktats outranciers de certains lobbies qui n'ont même pas demandé notre silence, nous le leur donnons d'avance. Et j'aimerais vous citer trois de ces domaines où nous avons à recouvrer notre liberté de parole. Et ce sera là mon plaidoyer. Celui d'abord d'un témoignage résolu. Que n'a-t-on dit sur le prosélytisme des protestants évangéliques avec leur manie de témoigner de leur foi, d'aller sur les places publiques et d'inviter les personnes à se convertir au Christ, y compris les pratiquants d'autres religions. Quand on dit qu'on parle du Christ aux musulmans, vous voyez les élus qui commencent à blanchir. Prosélytisme, un mot commode pour disqualifier le militant religieux en le soupçonnant des pratiques les plus viles. Harcèlement, manipulation, fanatisme. C'est tout juste si dans un souci d'équilibre qui n'est qu'apparent, on ne renvoie pas dos à dos, et on le fait en fait, hein, l'islamisme et l'évangélisme comme expression d'un même extrémisme religieux. Excusez du peu. Ne nous laissons pas impressionner par ces jugements fallacieux et mal intentionnés et ne nous empressons pas de satisfaire aux critères souvent mal définis de ce que serait le prosélytisme. Nous n'avons pas à nous excuser de témoigner de notre foi, y compris sur la place publique, ni à renoncer à appeler nos contemporains à la conversion, qu'ils soient bouddhistes, juifs, musulmans ou rien du tout. C'est là, mes amis, un droit qui est garanti par les lois françaises et européennes. Et quant à ceux qui nous reprochent de vouloir conquérir le monde, vous savez comment on nous a brocardés dans les journaux il y a quelques années, rappelons-leur que c'est avec l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu, et non avec les armes de la séduction ou de la destruction. Disciples d'un maître qui a donné sa vie pour notre salut, nous n'avons nul besoin de prendre la vie d'autrui pour garantir notre paradis. Au contraire, nous donnons la nôtre pour que se répande cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Deuxième chose, le fossé grandissant entre nos choix de vie en matière de sexualité, de mariage, d'éducation, d'approche de la mort, et ceux d'une majorité de nos contemporains, peu à peu consacrés par la loi française, rend notre situation d'évangélique très inconfortable. Par crainte d'être mal jugé, une partie des membres et sympathisants de nos églises se fait conciliante dans le discours et parfois arrangeant dans les faits. Sachez que 60% des évangéliques considèrent qu'il n'y a pas de problème à l'euthanasie. Et que 15% des évangéliques considèrent, ça c'est un sondage IFOP, hein, 15% des évangéliques considèrent qu'il n'y a pas de problème avec la pratique homosexuelle. Vous voyez qu'il y a du travail à faire. Et par crainte d'être jugé, mais jugé au sens pénal du terme, hein, les pasteurs et anciens se font muer sur ces sujets. L'attitude des uns encourageant celle des autres, il y a là un double danger. Celui de l'infidélité au Seigneur et à sa parole pour tous, et celui du refus d'accompagner et de soutenir les brebis désorientées pour les bergers. En effet, mes amis, si nous voulons que nos églises restent fidèlement attachées au Maître et solidement ancrées dans l'Écriture, il nous faut oser aborder les questions éthiques avec courage. Mais le courage n'exclut pas la sensibilité, la finesse. La seule chose que vous devez vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne manière de parler du péché à la fin. Ça risque toujours, à un moment ou à un autre, de choquer. Troisième et dernière chose que j'aimerais dire. Si je suis bien informé, nos églises et nos œuvres s'investissent dans quantité d'actions à caractère social en faveur des plus défavorisés. Je vous donne un exemple, j'étais ce matin à l'inauguration du nouveau bâtiment de la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse. Ça vous dit quelque chose? C'est la méga church évangélique, hein, plus de 2000 personnes au culte dimanche matin. Ils font du travail dans 11 quartiers de Mulhouse et des alentours. 11 quartiers. Donc, quand je vous dis que les églises évangéliques agissent, ce n'est pas une vue de l'esprit. Elles le font par amour chrétien, sans esprit de récupération. Mais, et c'est là où il y a un problème, ces églises sont souvent sommées par les collectivités ou les élus qui sont allés les chercher ou qui louent leur dévouement de ne pas ajouter la parole aux actes. Et elles ont si bien intégré ce diktat qu'elles s'empressent de dire qu'elles ne font aucun prosélytisme à ceux qui n'en demandaient pas tant. Cessons, mes amis, d'être aussi frileux et courons le risque d'un témoignage sobre mais clair, y compris dans le cadre de nos actions sociales. Après tout, vous savez, ceux qui font pression pour que nous restions silencieux ne se privent pas d'annoncer la bonne parole, qui de sa conscience sociale aiguisée, qui de sa gestion éclairée des deniers publics, qui de la pertinence des choix de son parti politique. Tout cela, vous l'avez compris, pour des questions électorales. Et nous devrions éviter de dire pourquoi nous agissons, alors qu'il y a en jeu bien plus que des bulletins électoraux. Ce sont des vies qui se perdent pour l'éternité. Ce que les autorités ne mesurent pas, et que je leur dis, c'est que nos actions ne sont pas motivées d'abord par un idéal humaniste, mais par une foi vivante. Si ces autorités veulent empêcher l'expression de cette foi, alors nos œuvres s'étioleront et nos bénévoles se démobiliseront. Pourquoi ne pas le faire avec le Secours populaire, après tout, si on ne peut rien dire? Et pourquoi ne pas faire valoir à ces mêmes autorités qu'à l'heure où certains groupes extrémistes s'infiltrent dans les quartiers sensibles, sous couvert d'actions sociales et en font des filières de recrutement du djihad, la c'est l'action de croyants déterminés mais paisibles et plus que jamais nécessaire pour donner du sens à des vies brisées et à des cités sans âme. Devant ce triple défi, voyez-vous, du témoignage résolu, de choix de vie assumés, enseignés, d'actions sociales faites ouvertement au nom du Christ, nous n'avons pas besoin, mes amis, de plus de détermination. Nous avons besoin du secours de l'Esprit-Saint. Filles et fils de la grâce de Dieu, nous savons que tout commence au pied de la croix. Si dans ces domaines nous nous sommes attiédis ou relâchés, repentons-nous et demandons au Seigneur qu'il ravive notre premier amour. Et si nous sommes restés fidèles, eh bien demandons-lui la grâce de la persévérance. Et dans l'un et l'autre cas, demandons au Seigneur la grâce de l'humilité pour ne pas nous transformer dans un monde en proie à la folie et à la mort, en donneurs de leçons, en donneurs imbuvables de leçons. À Dieu plutôt qu'aux hommes, notre obéissance, telle doit être notre devise. Mais il faut immédiatement ajouter, non pas pour nous désolidariser de l'humanité, mais pour l'aimer, en lui annonçant le salut. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Étienne. Je ne sais pas si on mettra l'enregistrement à disposition ou pas. Je crois qu'il y a beaucoup de matière dans ce qui nous a été présenté ce soir et que ça vaudrait la peine quelquefois de réécouter un certain nombre de choses. Moi, j'ai un regret personnel, je pense, partagé avec Philippe, c'est que Madame la maire aurait bien voulu être là ce soir avec nous, puisqu'on l'avait invitée. Mais bon, elle était prise à préparer des communions à l'église catholique de Ferney. Mais peut-être qu'on lui transmettra un CD de ta part, parce que je trouve que c'est très intéressant ce qui était là, et ça aurait été très instructif pour elle. Je voudrais maintenant ouvrir un moment de questions ou de commentaires. Vous avez peut-être des questions, peut-être d'éclaircissement, parce qu'il y a eu une matière relativement dense qui a été transmise là ce soir, ou des questions d'éclaircissement, ou alors est-ce que vous avez des questions d'application ou des commentaires à faire qui vous serait venu pendant la causerie d'Étienne.
Pierrick. Moi, j'ai juste, j'ai peut-être pas bien compris parce qu'il y avait beaucoup à saisir. C'est pas un reproche. Hein. Mais par rapport, quand tu posais le cadre juridique, tu disais que l'État avait obligation de neutralité, qu'il le transférait à ses agents, mais que l'usager des services, ou t'as parlé de services ou d'agents, je sais plus, avait la liberté d'expression, enfin la liberté de religion, pardon. J'ai du mal à comprendre comment on en est arrivé, surtout dans les écoles, je parle en tant que parent, à ces problèmes que tu décris de signes ostentatoires, de religion, tout ça, alors que les enfants qui vont là sont que des usagers, à mes yeux. Comment est-ce que...
Alors l'école est un lieu un peu particulier. Et effectivement, la loi dit que l'usager, normalement, la restriction ne s'applique pas à l'usager en matière de liberté religieuse. Il n'empêche que les circulaires de l'éducation nationale tendent de plus en plus à vouloir restreindre, y compris la libre parole des enfants, des élèves, ce qui me semble contradictoire avec le droit. J'en profite pour vous signaler que nous, étant préoccupés nous-mêmes par ces questions, nous avons mis en place une campagne qui s'appelle « Libre de le dire », donc sur la liberté d'expression. Et en fait, nous sortons régulièrement des livrets pédagogiques. Celui-ci, c'est « Libre de le dire à l'école », justement, où nous repérons le droit et la jurisprudence pour montrer comment doivent se comprendre et comment peut se vivre la liberté d'expression à l'école. Ici, au travail. Le troisième, qui est sous presse, c'est dans l'espace public. Le quatrième, ce sera à l'université. Et le cinquième, je suis sûr qu'il va vous faire réagir, c'est à l'église. Libre de le dire à l'église. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Nous observons qu'un certain nombre d'enseignants dans les églises, anciens ou pasteurs, craignent d'aborder certains sujets, de peur d'être attaqué. Et du coup, il y a des pans de l'éthique qui ne sont plus abordés ouvertement. Donc, c'est voilà. Et puis, nous avons fait un livre qui, cette fois-ci, est un peu plus dense, qui, lui, est plus de réflexion, « Libre de le dire, fondement et enjeu de la liberté de conscience et d'expression en France ». Il y a six contributions, historiens, théologiens, sociologues, etc., philosophes aussi sur ces questions-là. Pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin, quand on dit que l'usager donc reste libre de son expression, ça veut dire que théoriquement, par exemple, la dame qui vous reçoit à la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas le droit de porter le voile. Mais par contre, si vous, vous estimez que dans votre religion, vous devez le porter, elle ne peut pas vous imposer de l'enlever. Vous savez d'ailleurs, il y a une chose qui n'est pas toujours bien comprise, vous savez d'ailleurs que le niqab qui a été interdit par la loi française, ce n'est pas pour des motifs religieux, c'est pour des motifs de sécurité. Et on peut le comprendre, parce que là, la personne est cachée totalement et on ne peut pas savoir de qui il s'agit, sans compter que dans certaines circonstances, ça représente un vrai danger pour la vie de la personne, si elle conduit, ou pour la vie des personnes autour. Mais là où, par exemple, ça crée un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la maman qu'on a sollicitée pour accompagner les sorties de l'école ? Doit-on considérer qu'elle est un agent du service public, auquel cas elle n'a pas le droit d'avoir son voile ? Ou doit-on considérer qu'elle est une bénévole, donc une maman, et qu'après tout, une maman, elle a bien le droit de porter son voile si elle le désire ? Vous voyez comment le débat s'organise ? Et vous savez qu'il y a une loi qui a été abandonnée, qui voulait, un projet de loi qui voulait aller interdire aux assistantes maternelles qui reçoivent des enfants chez elles de manifester de quelque manière que ce soit leur appartenance religieuse. Donc on était en train de s'introduire dans le foyer même. Vous voyez les enjeux là.
Donc Déborah, bonsoir. Est-ce qu'un agent de la fonction publique a le droit d'avoir une petite croix ou enfin un petit signe ? Ou là aussi s'applique cette notion de signe ostensible, ostentatoire ?
Alors je pense, alors là, souvenez-vous, je ne suis pas juriste. Hein. Je pense qu'effectivement, si un chef de service dit à l'agent en question qu'il doit retirer sa croix, je pense que d'un point de vue du droit, il me semble que l'agent est obligé de la retirer, qu'il n'a pas vraiment le choix. Mais là aussi, c'est affaire d'interprétation. Et j'aimerais vous raconter une histoire dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse, qui est la situation de Nadine Lalanne. Ça vous dit quelque chose ? Alors, Nadine Lalanne est une fonctionnaire de la mairie de Conflans-Sainte-Honorine. C'est une évangélique. Cette femme, très bien notée dans son travail, qui est à la tête de tout un service, je ne sais plus si le service de la petite enfance, enfin de tout un service, avait l'habitude depuis plusieurs années d'offrir à ses collègues, à ses subordonnés, pas simplement à ses collègues, un calendrier de son église. Et sur ce calendrier, il y avait un verset, un proverbe, sauf erreur de ma part, en l'occurrence l'année où l'affaire a éclaté. Eh bien, elle a été sanctionnée pour avoir offert ce calendrier et elle a été mise dans un placard. C'est-à-dire à une fonction qui n'a aucun intérêt, alors qu'elle est à un âge où elle ne retrouvera pas de fonction intéressante maintenant. On est allé rencontrer, le vice-président est allé rencontrer le maire, avoir une explication, il s'est pris. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que malheureusement, avec Internet, vous savez, il y a beaucoup de choses qui circulent et les évangéliques ne montrent pas toujours un très beau visage. Il a reçu des insultes de la part de quantité de chrétiens évangéliques. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur témoignage qu'on puisse rendre. Mais nous avons toujours maintenu que la sanction était disproportionnée par rapport à... Effectivement, le maire était dans son droit de lui dire qu'elle n'avait pas à le faire. Mais de là, en quelque sorte, à la sanctionner de la sorte, nous paraît alors sans mesure.
Parce qu'elle l'avait fait sur un espace public.
Parce qu'elle avait donné ça, effectivement, dans le cadre de son travail.
Par contre, il y a des affiches où... je crois, au service des impôts, j'avais vu, je crois que c'est comme ça, je ne suis pas tout à fait sûre des termes, mais c'est la République se vit à visage découvert, et du coup, ça permet aux agents d'imposer au moins que le visage soit visible.
Oui, mais là, c'est pour les questions de sécurité que je disais tout à l'heure. Bah oui, sinon, n'importe qui vient demander des droits, si vous ne voyez pas son visage, vous ne pouvez rien faire.
Alors, une question naïve, mais le terme prosélytisme, enfin, oui. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de condamnable ?
Non.
Non ?
Non.
Mais
alors,
pourquoi ça a cette connotation ?
Oui, alors premièrement, en droit, c'est jamais le terme. Le prosélytisme est toujours qualifié. C'est-à-dire qu'il y a toujours un adjectif qualificatif pour dénoncer un prosélytisme de mauvais aloi, agressif, etc. Et donc ça, c'est l'aspect du droit. Donc le prosélytisme, théoriquement dans les textes de droit, il n'est considéré comme mauvais que quand il est qualifié. Deuxième chose, en termes de linguistique, le mot à l'origine a un sens neutre. Celui qui fait du prosélytisme, c'est celui qui convainc, qui essaie de convaincre l'autre du bien fondé de sa religion. Le problème, c'est que c'est devenu éminemment péjoratif. Faire du prosélytisme, c'est en gros être coupable du pire des péchés dans la République française. Alors, je pense que d'un point de vue de votre... il faut être habile, il faut éviter de dire que je fais du prosélytisme, ça c'est donner le bâton pour se faire battre, vu le contexte. Mais au sens strict du terme, prosélytisme n'est pas en soi un mot péjoratif. Alors, vous avez remarqué quand même que Jésus l'utilise le mot prosélyte dans un sens qui est assez négatif. Il parle de ces pharisiens qui font des prosélytes. Et c'est dans un discours, il n'est pas spécialement tendre. Donc effectivement, là, il y a une connotation, mais à l'origine, le mot n'est pas connoté.
Juste une petite quelque chose, disons, qui est arrivé de l'autre côté à la frontière. Je me présente, pardon, Jacques Rosset, oui. Donc de l'église évangélique à Schönbourg, donc sur Genève.
Ok.
Brillant, donc, vient souvent chez nous pour nous faire des messages. Depuis plus de 20 ans, donc à Genève, nous avons, avec plusieurs églises, décidé de faire à Noël un stand biblique. Mm-hmm. Et au départ, on est parti avec une toute petite table, il fallait faire des grandes lettres, enfin, etc. Et de plus en plus, donc, c'est venu donc, par Internet pour pouvoir faire cette demande donc, aux autorités de la ville. Avec, bien entendu, de moins en moins de place pour dire ce qu'on allait faire. On avait une centaine de lettres pour dire vraiment notre motif pour faire ce stand. Et cette année, en 2014, nous avons eu le refus donc, de la ville de faire ce stand. Et les motifs, c'était prosélytisme et laïcité. Et bien entendu, là-dessus, c'était marqué aussi dans la lettre qu'ils nous avaient envoyée, qu'on pouvait faire recours, qu'on pouvait aller au tribunal. C'est ce qu'on a fait, on est allé au tribunal. On était plusieurs allés au tribunal parce qu'ils avaient interdit vraiment cette année-là tous les stands à connotation religieuse. On était, je ne sais plus, une dizaine ou une quinzaine. On était six à avoir été au tribunal sans se concerter. Et puis, bien entendu, nous, on est allés aussi avec l'association, le réseau évangélique, donc de Genève. Et là, dans le réseau évangélique, il y avait un juriste. Il nous a dit, ouais, faut y aller. Pas du tout pour semer la panique, mais simplement pour aussi tous les autres groupes qui voudront faire des stands dans la ville de Genève. Et puis, bien entendu, on a attendu pas mal de temps. C'était impossible de faire cette année à Noël. Une année, ils nous ont simplement dit aussi, oui, mais on est allé voir votre stand, et sur le stand, vous dites que vous avez de la littérature de Noël, et on a vu la Bible. Vous imaginez la Bible. Incroyable. Il a fallu écrire pour montrer les passages où vraiment Noël était dans la Bible aussi. Et puis, bien entendu, on a reçu dernièrement les six qui avons fait ce recours au tribunal. On était déboutés, donc, et puis on a gagné parce qu'il y avait rien. Il s'appuyait sur strictement rien, ce prosélytisme. Et le prosélytisme, moi, c'est ce qui m'a fait mal parce qu'on n'a jamais fait du prosélytisme. On n'a jamais dit aux gens, mais venez dans notre église, mais voilà, etc. Forcer des gens, on n'a jamais fait ça. Donc, on a envoyé une lettre, et puis aussi en même temps qu'au tribunal et puis à la ville. Et puis la ville a réécrit. Mais en fin de compte, ils ont dû bâcher, quoi, parce qu'il n'y avait rien. Et on a gagné. Enfin, tous ceux qui ont prié, et Dieu a gagné.
Oui, merci. J'étais au courant par le réseau évangélique suisse. Ouais.
Marie ?
Alors, un peu dans le même sens, nous avons pu, dans notre commune, ici à Prévesin, faire différentes actions. Et j'aimerais poser quelques questions par rapport à des interventions de la commune. Est-ce que la commune a le droit de refuser qu'on mette la Bible sur un stand ? Nous avions été invités à un marché de Noël, donc en tant qu'association du village. Donc on avait le droit de mettre des calendriers, une information sur notre... Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des prospectus mais de l'église, mais on nous a dit interdiction de mettre la Bible sur la table. Une autre fois, interdiction de distribuer des brochures à un marché alimentaire. Est-ce qu'ils ont outrepassé leurs droits ?
Alors, pour la question de la Bible, à mon avis, oui. Et il aurait fallu demander expressément sur quel arrêté municipal ou sur quelle loi il se basait, sauf s'il y avait des motifs associés du style « vous n'avez pas le droit de vendre ». Éventuellement, des fois, ils utilisent des biais pour y arriver. Mais je ne vois pas sur quel prétexte ils pourraient interdire de mettre sur un stand autorisé une Bible. Honnêtement, en matière de droit, je ne vois pas. La question des prospectus est une question un peu différente parce que normalement, alors je ne sais pas si la loi est toujours en vigueur, mais il fallait demander une autorisation pour distribuer des prospectus. Au moins, il fallait plutôt signaler qu'on allait le faire. Puis après, vous avez le problème qui peut aussi être invoqué, des ordures ménagères, c'est-à-dire que les prospectus sont partout. Donc, il faut toujours se méfier, il faut discuter, mais il faut jamais prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit. Il faut discuter. Il faut être un peu à la façon de l'apôtre Paul, qui à un moment dit, mais dis donc, vous savez que je suis citoyen romain, quand on veut le battre, parce qu'on n'a pas le droit. Nous sommes tout à fait légitimes à défendre notre droit. Souvenons-nous que nous sommes des citoyens, et pas des citoyens de seconde zone. Et notre foi a le droit de citer. Donc il faut oser. Et puis la deuxième chose que je vous recommanderais, il faut aussi être prêt à répondre à certains arguments. Parce que franchement, on veut nous empêcher de faire des choses que d'autres font largement. Je me souviens d'un collègue que le maire refusait de recevoir. Il est arrivé dans la ville de Lens, il a voulu aller voir le maire. Le maire... le boudé ne voulait pas le recevoir parce que c'est évangélique, on ne sait pas qui c'est. Donc, c'est Luc Maroni, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Il a insisté, il a fini par rencontrer le maire. Le maire, qui est un ancien ministre socialiste, a commencé à lui sortir ses vieilles rengaines laïcardes. Il a dit oui, mais puis vous faites du porte-à-porte, et puis, etc., votre prosélytisme. Et alors, il ne s'est pas démonté. Il a dit, mais dites donc, qu'est-ce que vous faites avec votre parti socialiste ? Vous ne faites pas du porte-à-porte pour récupérer de l'argent et pour vendre des cartes pour encarter les gens au parti ? Et nous, on n'aurait pas le droit de le faire ? Évidemment, le maire, là, il n'a plus su quoi dire. Et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Luc Maroni est adjoint à la mairie depuis un moment. Et le maire lui dit, au moins, je sais une chose avec toi. Il l'a proposé de devenir adjoint au maire. Il lui a dit, je veux que tu deviennes adjoint au maire, mais je veux, un, que tu sois libre le dimanche régulièrement. Deux, que tu sois encarté au Parti Socialiste. Alors mon collègue lui a répondu, j'ai bien réfléchi. Un, je ne serai jamais encarté au Parti Socialiste parce que je suis le pasteur de tous mes fidèles et il n'est pas question que je sois encarté dans un parti politique. Deux, le dimanche, c'est sacré, je ne viendrai pas. Il a dit, je te prends quand même. Et il lui a dit, mais tu es le seul qui ose me dire ce que tu penses. Et on a aussi besoin de ça en politique parce que ce n'est pas si fréquent.
Est-ce qu'on peut juste revenir sur la notion d'éthique ?
Oui.
C'est vrai que nos églises sont préoccupées par les grands sujets que sont l'euthanasie, que sont l'homosexualité, que sont l'avortement, etc. Ce sont des sujets très complexes. Au plan éthique, il y a peut-être des domaines plus proches de nous à cultiver. Tout à l'heure, l'affaire de cet employé de mairie qui a été sanctionné a donc suscité des réactions. Et quelque part, ça me fait penser que dans nos églises, il y a à prêcher des convictions très fermes, c'est que nous sommes d'abord des ouvriers de paix, et ensuite que nous sommes des proclamateurs et non pas des groupes de pression.
Oui.
Et ça me semble être quelque chose de capital si on veut répondre à l'appel que Christ nous a lancé. Voilà.
Je précise juste que néanmoins, tout en voulant être ouvrier de paix, la paix ne dépend pas que de nous. Il faut toujours s'en souvenir. La paix ne dépend pas que de nous. Soyez autant que possible en paix avec tous les hommes, mais autant que possible, voulant dire, ça n'est pas toujours. Voilà. Je voudrais vous signaler, vous connaissez Torrent de Vie ? Torrent de Vie qui fait du travail, en particulier aux personnes qui ont des troubles au niveau de la sexualité, qui essayent de les accompagner. Torrent de Vie a fait l'objet d'une campagne de la part des courants LGBT qui a été terrible. Les courants LGBT, les gays, lesbiens, gays, ouais, voilà, bitrans, LGBT, voilà. C'est-à-dire que dès qu'ils repéraient qu'il y avait un séminaire de Torrent de Vie dans une ville, à Toulouse, etc., ils s'organisaient pour faire du barouf dans la presse et pour empêcher la tenue du séminaire. Pourtant, si vous connaissez Torrent de Vie, ce ne sont franchement pas des gens qui tirent à boulet rouge sur l'homosexualité, ce sont des gens qui accompagnent les personnes, qui ont une vraie compassion, mais évidemment qui ne mélangent pas, je veux dire qui ne cachent pas non plus leur conviction. Donc, c'est juste pour dire qu'à la fois il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire les choses paisiblement, pour montrer de la compassion, mais que malheureusement, il peut arriver qu'on soit la cible, malheureusement, de personnes qui nous en veulent, dans ces domaines en particulier.
Michel, face à l'Évangile et Jésus, dans les épîtres aussi, où tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, par exemple, ça revient souvent aussi Jésus, est-ce que la situation normale du chrétien, ce n'est pas justement être persécuté? Et le bonus qu'on a eu depuis 100 ans de liberté, c'est un bonus, quoi. Et puis, il diminue.
Alors, je nuancerai le propos en disant qu'un chrétien ne peut pas s'attendre à ce que sa vie, l'affirmation de sa foi, soit sans provoquer des réactions. Quant à la persécution dure, comme elle existe, il y a quand même cette invitation de l'apôtre Paul lui-même à ce que nous prions pour les autoriser pour pouvoir vivre dans la paix. Donc il y a quand même un idéal de vie paisible dans une nation, dans une société. Effectivement, je suis d'accord, nous vivons des temps qui sont particulièrement bénis. Et je pense même que nous n'avons pas conscience de la liberté que nous avons. Ma femme, depuis quelques années, s'intéresse beaucoup aux persécutés avec l'association Portes Ouvertes. Vous avez remarqué à quel point la persécution religieuse dans le monde est extrêmement violente et en augmentation. Le nombre de chrétiens morts pour leur foi, hein, pas morts simplement, mais morts pour leur foi, entre l'année 2013 et 2014, a doublé, pour quasiment une seule raison, c'est pour la question de Boko Haram au Nigeria, où il y a eu des quantités de gens qui ont été massacrés. Donc, oui, c'est une bénédiction, la liberté que nous vivons. Ne nous attendons pas à ce que l'affirmation de la foi nous laisse tranquille. Si vous voulez être tranquille, ne dites rien, mais c'est votre conscience qui ne sera pas tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le Seigneur ne nous demande pas non plus d'être des chercheurs de la persécution. Je veux juste éviter que des fois, on ait une sorte de sadomasochisme. On n'a pas besoin de chercher les ennuis, ils viennent.
Bonsoir.
Bonsoir. Oh,
excusez-moi, c'est personnellement, je ne sais rien. Mais est-ce qu'il y a encore comment, des groupes de diables, groupes de Satan? Il existe aussi à Genève, en France.
Des groupes de?
Groupes de sataniques ou diaboliques.
Si ça existe, oui, bien sûr.
Oui.
C'est tout ce que je peux dire.
Étienne, moi, je vais te poser une question peut-être un petit peu plus généraliste. Mais toi qui es au CNEF aujourd'hui et où vous représentez un petit peu les évangéliques, aujourd'hui, il y a beaucoup de batailles qu'on pourrait, dans lesquelles on pourrait s'engager. Parce qu'en fait, le droit est pour nous, dans un sens. Pour beaucoup de choses. Je crois que ce soir, tu l'as bien montré. Le droit est pour nous. Mais, en gardant à l'esprit que c'est à Dieu plutôt qu'aux hommes que nous devons obéir, quelles sont quand même les batailles ou les points sur lesquels aujourd'hui des communautés comme les nôtres ne doivent pas transiger ou dans lesquelles nous devons nous engager et qui auront comme résultat de faire soit rétablir la situation, soit la faire progresser pour la liberté religieuse et une notion plus équilibrée de la laïcité ou plus... je veux dire, parce qu'on pourrait se battre sur tous les terrains, mais quels sont les sujets aujourd'hui que tu penses, les évangéliques, sur lesquels ils doivent tenir ferme et dans lesquels ils pourraient, dans un sens aussi, remporter certaines victoires, pas pour eux-mêmes, mais pour le bien de la communauté, pour le bien de la liberté religieuse et la liberté de conscience.
Moi, je crois qu'il faut absolument se battre pour que la liberté d'expression, qui est un fruit, à mon avis, comme j'ai essayé de le montrer, de la foi chrétienne, hein, la liberté d'expression et de conviction avec coexistence de cultes divers, il faut que nous nous battions pour que cette réalité demeure. Alors, je pense qu'il faut se battre en rappelant le droit, c'est ce qu'on essaye de faire là, en étant des gens de la parole. D'une certaine manière, nous devrions être plus sensibles aussi au lien avec le droit. Le problème, c'est que, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi j'ai fait toute ma scolarité sans jamais avoir jamais de cours sur les institutions juridiques, le droit, c'est à peu près inconnu. Et on est des ignares en la matière. C'est bien dommage, parce que le droit, dans une nation, c'est ce qui fait sa santé. Quand la justice est rendue selon le droit, c'est ce qui permet à une nation de subsister. Et donc, et je crois que les évangéliques, dans leur tradition, qui me semble biblique, devraient se battre pour une liberté pour tous. Gardons-nous de devenir des gens qui réclament seulement la liberté pour eux. Nous voulons défendre la liberté pour toute la communauté, parce que nous sommes persuadés que toute la communauté, au sens la communauté civile, hein, se portera mieux si hommes et femmes peuvent librement exprimer leurs convictions. Et moi, je suis effaré, c'est ce que je vous disais, je suis effaré de voir à quel point on est en train de payer très cher le néant spirituel dans lequel des valeurs humanistes sans ressort chrétien ont abouti. Ce matin, j'entendais encore les élus. C'était assez formidable à cette inauguration. Alors, ils avaient des discours, l'un d'entre eux en particulier, sur la spiritualité, la spiritualité, la spiritualité. Mais la spiritualité sans Dieu, où va-t-elle? Que donne-t-elle? Et je crois que là, il faut redécouvrir ou il faut reprendre le flambeau de nos pères, qui est de dire, mais la liberté de conscience et de religion, c'est un acquis de la foi chrétienne et de la société démocratique. Il ne faut pas le laisser biaiser par tous les débats qu'on a autour de l'islam radical. On a une manie en France, on fait des lois de circonstance. On ne traite les choses que dans l'émotion. Et alors, on vous fait des, Vous savez que notre droit du travail, par exemple, comporte plusieurs milliers de pages. Vous franchissez la frontière et le code du travail en Suisse en comporte quelques dizaines. Je ne sais pas qui a tort ou qui a raison, mais je vois que les problèmes du travail ici sont quand même assez sérieux. Donc là, il y a du travail à faire pour notre société. Voilà ce que je dirais. En tout cas, c'est pour ça que nous, en particulier, nous battons. Mais évidemment, derrière, et il ne s'agit pas de cacher notre, mettre notre conviction sous le coude, hein, nous battons aussi pour pouvoir dire que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il appelle à la foi tout homme et toute femme à la repentance. Un peu à la manière d'un Roger Williams, nous accueillons nous voulons que les musulmans puissent célébrer leur foi, mais nous sommes prêts à leur dire qu'ils se trompent. Il faut le dire. Et vous savez, en général, mon expérience, quand nous disons à des gens qui ont une certaine pratique religieuse, ils vous écoutent. Moi, j'ai eu de meilleures conversations quand j'étais étudiant avec des musulmans qu'avec des chrétiens de nom. Hein. Ça, c'est très clair. Ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais ils respectaient ce que je croyais. Voilà.
Bien. En tous les cas, Étienne, encore un très très grand merci. Je crois qu'encore une fois, c'est beaucoup de matière à intégrer. Et on réfléchira encore à comment mettre cela à disposition. Moi, ce que j'aimerais peut-être surligner, des choses que moi j'ai tirées de ce soir, mais qui me semblent importantes, c'est déjà que l'histoire et le droit sont dans un sens pour nous. Et pas seulement pour nous, mais pour tout le monde qui veut exprimer son opinion et sa pensée. Et qu'il y a une dérive qui est en train de se passer aujourd'hui et qu'il faut que d'une façon ou d'une autre, les débats puissent continuer pour que quelque chose se rétablisse. Et ça, je pense que pour nous, il faut que nous ayons de nouveau cette conviction que dans un sens, il y a une dérive et que ce n'est pas tout à fait normal. La deuxième chose qui me semble importante, c'est naturellement ta conclusion, Étienne. C'est que on ne se cache pas et on n'utilise pas simplement la loi. Il y a d'abord un appel qui nous est adressé par Dieu. Et cet appel, il subsiste quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, que ce soit des circonstances de persécution ou de paix. Et que c'est à cet appel-là que nous devons toujours répondre. Et je crois que là, tu as mis le doigt sur des choses où quelquefois, je crois que oui, nous nous retirons un petit peu des discussions parce que nous avons peur ou parce que nous disons il faut respecter les autorités, etc. Et tout. Et on n'a pas toujours su peut-être franchir cette ligne quand on pouvait et quand on devait le faire. Et là, il y a certainement matière à réfléchir aussi. Mais l'autre chose qui me paraît intéressante aussi, il ne suffit pas de revenir au début du XXe siècle, les 1905, et puis le cadre historique, parce que le monde a complètement changé depuis ce moment-là. Et tu as bien montré en quoi il est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ce qu'il était à l'époque, mais aussi comme quoi, et tu parles de spiritualité, mais toutes ces notions de valeur et ce monde qui évince de plus en plus ce qui est spirituel et ce qui est de Dieu, et où la laïcité est devenue une valeur, mais on dira où la République est devenue, dans un sens, l'identité première de tout le monde, au-dessus de nos convictions religieuses et tout ça. Et là, il me semble qu'il y a une bataille à mener, mais de l'ordre de la prière et de l'intercession pour que Dieu ouvre les yeux à nouveau à nos contemporains, ouvre les yeux dans notre société pour voir qu'il y a plus que simplement ce que nous sommes en train de voir, qui est en train de se réduire à quelque chose qui devient insipide et dans lequel peu de personnes finissent par se reconnaître. On essaye de trouver le plus petit commun dénominateur et c'est très mauvais pour notre société. Mais la dernière chose qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as dit, je le savais, mais qui a été dit de nouveau, c'est que exprimer nos opinions, entrer en discussion, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur pour notre société et c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'évangélisation. Le but n'est pas de faire taire les autres et de nous avoir raison, le but n'est pas. C'est toujours un ferment positif lorsqu'il y a des discussions. Et ça, il faut qu'on s'en rappelle, non seulement pour promouvoir ça dans notre société, mais souvenez-vous, vous qui êtes membre de notre Église, notre charte, qui dit aussi, nous voulons que les gens expriment leurs opinions, même si elles sont différentes les unes des autres, pour que nous nous écoutions les uns les autres, pour que nous progressions collectivement, ensemble, que nous nous respections les uns les autres. Et là, ce sont des principes qui, quelquefois, sont contre nature, contre notre façon de penser, mais c'est fondamentalement ce qui est le ferment positif aussi de la société dans laquelle nous pouvons vivre et dans laquelle nous pouvons être des catalyseurs pour permettre à une société dans un sens de progresser. En tous les cas, encore une fois, moi je regrette, Étienne, que notre maire ne soit pas là ce soir et que ses adjoints. Nous avons eu une conversation très très positive avec elle. Quand moi je dis très très positive, je pense que Philippe sera d'accord avec moi, mardi dernier. Et je crois qu'elle est vraiment alignée sur beaucoup de nos points de vue aussi. Elle a ses problèmes internes, naturellement, avec ses responsabilités, ses adjoints, l'opposition, etc. Mais en tous les cas, je crois qu'on est dans une commune où on pourrait faire davantage de choses et on va saisir les opportunités, mais aussi contribuer à la vie de notre communauté ici. En tous les cas, je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Demain matin, Étienne sera avec nous pour le culte. Et demain après-midi aussi, sur un sujet qui construit un petit peu là-dessus, qui est celui donc sur l'évangélisation et notre témoignage dans une société qui a beaucoup changé aussi. Et comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui apporter cette parole dans la société, pas simplement sur le plan légal, mais aussi pour que les personnes entendent, écoutent, aient soif et répondent à cet appel. Donc vous êtes tous invités à revenir demain après-midi. On aura un repas aussi tiré des sacs ensemble après le culte, donc ça sera l'occasion. Et puis Étienne, tu nous donneras aussi des informations sur le Conseil national des évangéliques de France, puisque comme vous le savez, c'est l'instance qui représente 80% des évangéliques, si je ne me trompe, en France aujourd'hui, en dialogue avec la Fédération protestante et les autorités dans notre pays. Donc voilà, bonne soirée à chacun, bonne rentrée, merci d'être venu, j'espère que...
Il y a des livres au fond.
Ah oui, pardon.
Donc je vous ai présenté trois d'entre eux, celui dont je me suis passablement inspiré, la laïcité française. Et puis encore, alors là, ce n'est pas tout à fait dans notre sujet, mais ça pourrait vous intéresser, un livre qui précise ce qu'est la théologie de la prospérité pour en montrer les dangers. Voilà. Donc n'hésitez pas.